Simple conte des collines de Rudyard Kipling. Lancé à l'aventure. Quelques-uns boudent, tandis que d'autres veulent regimber. Voyons, tiens ferme, et toi, reste donc tranquille. Avec quelques-uns, il faut se montrer doux. Avec d'autres, il faut porter des coups. Là, là, voyons, personne ne veut te tuer. Quelques-uns, dans toute profession il y a du déchet, auront le cœur brisé avant d'être domptés, se démèneront comme diables sous la morsure de la corde, et mourront au manège, fous de rage muette, hébétés. Cœur de l'enclos de Tulungala. Élever un jeune garçon dans un cocon, comme disent les familles, n'est pas prudent si le garçon doit se lancer dans le monde et y jouer des coudes. À moins d'être une exception extrêmement rare, il lui faudra subir bien des crises possibles à éviter et très probablement endurer de terribles souffrances par simple incapacité à donner aux choses leur juste proportion. Laissez un petit chien manger le savon de la salle de bain ou ronger une botte qui vient d'être cirée. Il mâche et ronge jusqu'au jour où il s'aperçoit que le cirage et le savon Old Brown Windsor le rendent très malade. De là, il conclut que le savon et les bottes ne valent rien pour la santé. Le vieux chien de la maison lui apprendra bientôt qu'il est imprudent de mordre les oreilles des vieux chiens. Étant jeune, ses enseignements se gravent dans sa mémoire et, âgé de 6 mois, il part à travers le monde en petite bête bien élevée dont l'appétit est discipliné. S'il avait été tenu à distance des bottes, du savon et des oreilles des gros chiens, puis parvenu au terme de sa croissance avec toute sa dentition, s'il s'était brusquement trouvé en contact avec cette redoutable trinité, jugez s'il serait cruellement malade et s'il recevrait des rossées. Appliquez ces principes au système de l'éducation, dans un cocon, et voyez ce qui en résulte. Notre méthode ne sonne pas bien à l'oreille, mais de 2 mots c'est le moindre. Il était une fois un petit garçon qui avait été élevé selon le système du cocon, et à qui ce système coûta la vie. Depuis l'heure de sa naissance jusqu'à celle où il alla à Sandhurst se classer presque en tête de liste, il n'avait jamais quitté ses proches. Il avait été admirablement formé par un précepteur particulier dans tous les exercices au moyen desquels on gagne de bons points, et il avait encore le mérite spécial de n'avoir jamais causé 1 heure d'inquiétude à sa famille. Ce qu'il a appris à Sandhurst, en dehors de la routine ordinaire, ne vaut pas qu'on en parle. Il regarda autour de lui et trouva, si l'on peut s'exprimer ainsi, très bon goût au savon et au cirage. Il en tâta un peu et quitta Sandhurst la tête moins haute qu'il n'y était entré. Alors il y eut une pause et une scène avec ses parents qui attendaient beaucoup de lui. Puis ce fut 1 an de vie loin des souillures du monde, dans un bataillon du dépôt de 3e classe, où tous les jeunes étaient des enfants, tous les anciens de vieilles femmes. Enfin, il partit pour l'Inde, où il se vit privé du soutien familial et n'eut dans les temps difficiles d'autres personnes sur qui compter que lui-même. Or, l'Inde est avant tout un pays où il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux, sauf quand il s'agit du soleil de midi. Un travail exagéré, une trop grande dépense d'énergie, tue un homme aussi sûrement que les excès du vice ou ceux de la boisson. Quant au flirt, il n'importe guère. Tout le monde doit un jour ou l'autre être déplacé. Dès lors, vous ou elle quitterez la station pour ne jamais revenir. Le travail bien fait ne tire pas non plus à conséquence, parce qu'on mesure un homme d'après ce qu'il peut faire le plus mal. Ce qu'il fait de mieux est en général attribué à un autre. Mal travaillé n'importe guère, parce que d'autres font plus mal encore et que l'Inde est plus encombré d'incapables que tout autre pays. Les amusements n'ont aucune importance, parce qu'ils recommencent aussitôt après que vous les avez terminés et que la plupart du temps, s'amuser signifie essayer de gagner l'argent d'autrui. La maladie n'a aucune importance, parce qu'elle est un lot quotidien, et que si vous mourez, un autre prend votre place dans les 8 heures qui s'écoulent entre votre mort et votre enterrement. Rien n'a d'importance que les congés à passer au pays et le montant de vos indemnités de suppléance, parce que les uns et les autres sont rares. C'est le pays de la négligence, où tout le monde travaille avec des outils imparfaits. Le parti le plus sage est de ne prendre au sérieux ni rien ni personne et de s'évader, aussitôt qu'on peut, dans un endroit où l'amusement est vraiment amusement et où il vaut la peine de se faire une réputation. Mais ce jeune homme, l'histoire est aussi vieille que les collines, ainsi expatrié, prit tout au sérieux. Il était gentil, il fut choyé. Il prit au sérieux ses cajoleries et se fit bien du mauvais sang pour les femmes qui ne méritaient pas qu'on scellât un poney pour aller leur rendre visite. Il trouva beaucoup de charme à la libre vie qu'il goûtait dans l'Inde pour la première fois. Elle paraît attrayante dans le commencement, à celui qui juge les choses en officier subalterne, ne voit que poney, camarades de jeu, danse et le reste. Il en tâta comme les petits chiens goûtent au savon. Seulement, il en goûta sur le tard, et alors que sa dentition était complète. Il ne sut pas trouver le juste milieu, tout comme le petit chien, et ne put comprendre pourquoi il n'était pas traité avec autant d'égard que sous le toit paternel. Cela heurtait ses sentiments. Il se prit de querelles avec d'autres garçons, et étant sensible jusqu'à la moelle, il garda rancune de ses querelles, se piqua au jeu. Il trouva du plaisir au whist, au gymkhana et aux autres choses de cette sorte inventées pour se distraire après les heures de travail. Mais il les prit aussi au sérieux, tout comme le mal de crâne qu'il ressentait après boire. Le whist et les gymkhana lui firent perdre de l'argent parce que tout cela était nouveau pour lui. Il prit au sérieux ses pertes et mit tout autant d'énergie et d'application à une course dont l'enjeu de 30 roupies portait sur les performances de poney débutant aux crinières tressées que s'il se fût agi du derby. Cela était dû, moitié à l'inexpérience, de même que le petit chien se chamaille avec le coin de carpette du foyer, et moitié à l'étourdissement que lui causait le passage d'une vie tranquille au mouvement d'une vie plus animée. Personne ne lui parla du savon et du cirage, parce que la plupart des hommes tiennent pour certain qu'un homme d'intelligence moyenne s'en défie suffisamment. Il était réellement pénible de voir le jeune homme s'en aller par morceaux à chaque heure, comme un poulain qu'on a trop tenu en main tombe et se blesse quand il échappe au valet d'écurie. Cette licence sans frein dans des distractions qui ne valent pas la peine qu'on sorte du rang pour y goûter, et à plus forte raison qu'on y court en bousculant tout le monde, dura 6 mois, c'est-à-dire tout le temps de la saison froide. Nous pouvions encore croire que la chaleur, la conscience d'avoir perdu son argent et estropié ses chevaux, calmerait le jeune homme et qu'il prendrait de l'aplomb. C'est ce qui serait arrivé dans 99 cas sur 100. Vous voyez cela se produire dans toutes les stations de l'Inde. Mais ce cas particulier fut une exception, parce que le jeune homme était sensible et prenait les choses au sérieux, ainsi que j'ai dû déjà le répéter au moins 6 fois. Certes, nous ne saurions dire quelle impression ses excès faisaient sur lui-même. Il n'avait rien qui fût de nature à briser le cœur, rien qui dépassât la moyenne. Il était possible qu'il soit financièrement embarrassé pour le restant de ses jours. Peut-être son état nécessitait quelques soins. Un jour de forte chaleur pouvait faire oublier le souvenir de ses exploits. Un prêteur aurait pu l'aider à se remettre à flot et à sortir de ses ennuis d'argent. Mais il se plaça à un point de vue tout différent et dut se croire définitivement ruiné. Son colonel l'admonesta sévèrement quand la saison froide fut passée. Cela le rendit plus malheureux que jamais. Et pourtant, le colonel n'avait fait que lui laver la tête, comme il l'aurait fait à n'importe qui. Ce qui se passa ensuite est un exemple curieux de la façon dont nous tenons les uns aux autres et nous rendons responsables des actes d'autrui. Ce qui illumina brusquement l'esprit du jeune homme fut une remarque lancée par une femme durant une de leurs conversations. Il ne servirait à rien de la reproduire ici, car c'était une cruelle petite phrase, décochée avant qu'elle y eût songé, et qui le fit rougir jusqu'à la racine des cheveux. Il la garda sur le cœur pendant 3 jours, puis il demanda 2 jours de congé pour aller chasser aux environs de la résidence de villégiature de l'ingénieur du canal, à environ 30 000 de là. Il obtint son congé, et ce soir-là, au mess, il fut plus bruyant, plus encombrant que jamais. Il dit qu'il allait tirer le gros gibier et partit à 10h30 dans une hecka. La perdrix, unique gibier qui se rencontrait aux abords de la résidence en question, n'est pas précisément un gros gibier, de sorte que tout le monde riait de ses fanfaronnades. Le lendemain, un de ses majors rentra de congé et apprit que le jeune homme était parti pour tirer du gros gibier. Le major s'intéressait quelque peu à lui et avait fait plusieurs tentatives pour mettre un frein à ses excès pendant la saison froide. Le major ouvrit de grands yeux quand il apprit l'expédition. Il se rendit dans la chambre du jeune homme et y fut retard. Au bout d'un instant, il sortit et me rencontra alors que je quittais le jeu au mess. Il n'y avait personne dans le vestibule. « Le petit est parti à la chasse, me dit-il. Peut-on tuer une perdrix avec un revolver et un encrier ?»«
C'est absurde, major, répondis-je, car je voyais ce qu'il avait dans l'esprit. »«
Absurde ou non, reprit-il, je vais au canal immédiatement. Je suis inquiet. »
Il réfléchit une minute et reprit.
« Savez-vous mentir ? Vous vous en doutez un peu, c'est mon métier. »«
Très bien, conclut le major. » Alors vous allez partir avec moi maintenant, tout de suite, dans une hecka du côté du canal pour tirer le daim noir. Allez vite endosser votre tenue de sicard et revenez avec un fusil. Le major était un homme autoritaire et je savais qu'il ne donnait pas d'ordre sans motif. Aussi, j'obéis. À mon retour, je le trouvai installé dans une hecka, des étuis à fusil et des vivres suspendus dans les filets, tout prêt pour une partie de chasse. Il renvoya le conducteur et se chargea lui-même de tenir les rênes. Nous cahotâmes sans nous presser, tant qu'on fut dans la station, mais dès que nous eûmes atteint la route poussiéreuse qui traversait la plaine, il lança le poney au galop. Un animal du pays peut faire n'importe quoi en cas d'urgence. Nous couvrîmes nos 30 000 en 3 heures, mais la pauvre bête était presque morte. Je finis par dire « Mais, major, pourquoi cette hâte vertigineuse ?» Il répliqua d'un ton calme. Ce jeune homme est seul, en tête à tête avec lui-même, depuis 1, 2, 5, 14 heures maintenant. Je vous le répète, je ne suis pas tranquille. Cette inquiétude me gagna, et moi aussi je me mis à fouetter le poney. Quand nous arrivâmes à la maison de l'ingénieur du canal, le major héla le domestique du jeune homme, mais sans obtenir de réponse. Alors nous nous approchâmes, et nous l'appelâmes par son nom. Pas de réponse.
« Oh, il est parti à la chasse » fis-je.
Juste alors, je vis par une des fenêtres une petite lampe de jardin qui brûlait. Il était 4 heures de l'après-midi. Tous deux, nous nous arrêtâmes sous la véranda, retenant notre souffle, à l'affût du moindre bruit, et nous entendîmes à l'intérieur de la pièce, le bourdonnement d'une multitude de mouches. Le major me dit mot, mais il enleva son casque et nous entrâmes. Le jeune homme gisait sur le lit au milieu de la chambre nue et badigeonné à la chaux. Le coup de revolver lui avait fracassé le crâne. Les étuis des fusils n'étaient pas ouverts, le matériel de campement pas déployé, et sur la table se trouvait son buvard avec des photographies. Il était allé très loin pour mourir, comme un rat empoisonné. Le major murmura tout doucement : Pauvre garçon, pauvre. Pauvre diable. Puis il se détourna du lit. « J'ai besoin de votre aide dans cette affaire, » me dit-il. Voyant que le jeune homme s'était suicidé, je me doutais de quelle sorte d'aide il s'agissait, si bien que je m'installai devant la table, allumai un cigare et me mis à fouiller dans les papiers pendant que le major regardait par-dessus mon épaule et répétait à part lui « Nous sommes arrivés trop tard. » Comme un rat dans un trou. Pauvre diable, pauvre diable. Il avait dû passer la moitié de la nuit à écrire à sa famille, à son colonel, à une jeune fille de son pays. Et aussitôt qu'il avait eu fini d'écrire, il s'était fait sauter la cervelle, car il était mort depuis longtemps quand nous étions arrivés. Je lus tout ce qu'il avait écrit, et à mesure que je terminais un feuillet, je le faisais passer au major. Nous vîmes, d'après son récit, combien il avait pris au sérieux toutes sortes de choses. Il y était question d'un déshonneur qu'il n'était pas capable de supporter, d'une honte ineffable, d'une folie criminelle, d'une vie gaspillée, etc. Puis c'était des choses particulières qu'il disait à son père, à sa mère. Ça n'en finissait pas. Tout cela était trop sacré pour qu'on l'imprime. La lettre à la jeune fille de son pays était le morceau le plus touchant. En la lisant, j'eus la gorge serrée. Le major ne fit nul effort pour rester les yeux secs. Cela m'inspira du respect pour lui. Il lut, il se balança de côté et d'autre, il pleura comme une femme, simplement, sans chercher à s'en cacher. Les lettres étaient terribles, désespérées, très émouvantes. Nous oubliâmes toutes les sottises du jeune homme et nous ne pensâmes plus qu'à la pauvre chose qui gisait sur le lit et aux feuilles couvertes d'écriture que nous avions dans les mains. Il était absolument impossible de laisser des lettres comme celle-là arriver à leur adresse. Elles auraient brisé le cœur de son père et auraient tué sa mère en tuant la foi qu'elle avait en son fils. Enfin, le major sécha ses yeux ouvertement et dit « Voilà des choses bien commodes à jeter à la tête d'une famille anglaise. Qu'allons-nous faire ?» Sachant pourquoi le major m'avait emmené, je répondis « Il est mort du choléra. Nous étions ici lors de ses derniers moments. Nous ne nous en tirerons pas par des demi-mesures. Allons-y. » « Alors, comment ça, une scène ?» les plus terriblement comiques auxquelles il me soit arrivé de prendre part. Il s'agissait de fabriquer un gros mensonge par écrit, confirmé par des preuves pour consoler les parents que le jeune homme avait au pays. Je commençais par rédiger un brouillon où le major semait ça et là des indications, tout en rassemblant les pages écrites par le jeune homme et les brûlant dans la... Ce fut par une soirée chaude et tranquille que nous nous mîmes à l'œuvre, et la lampe brûlait très mal. En y mettant le temps, je bâtis un canevas satisfaisant, où je déclarai que le jeune homme était un modèle de toutes les vertus, chéri du régiment, promettant en tout point de vue de faire brillamment son chemin, et ainsi de suite. Je disais que nous l'avions soigné pendant sa maladie. Ce n'était pas l'heure des petits mensonges, vous comprenez, et qu'il était mort sans souffrir. J'avais la gorge serrée pendant que j'écrivais ces choses-là, et je pensais aux pauvres parents qui les liraient. Puis, je me mis à rire de l'allure grotesque que prenait l'affaire, et le major dit que nous avions besoin de boire quelque chose. Je n'ose dire la quantité de whisky que nous bûmes avant que la lettre fût finie. Ce whisky ne produisit pas le moindre effet. Puis, nous prîmes la montre, le médaillon et les bagues du jeune homme. Enfin, le major dit « Il faut que nous envoyions une mèche de cheveux, c'est une chose à laquelle tient une femme. »
Mais il nous fut impossible de couper une mèche de cheveux qui put être envoyée. Le jeune homme avait les cheveux noirs. Heureusement, le major les avait noirs lui aussi. Je coupai avec un canif une mèche des cheveux du major au-dessus de la tempe et je la mis dans le paquet que nous fîmes. Les éclats de rire et la sensation d'étranglement me reprirent et je fus forcé de m'arrêter. Le major n'était guère plus maître de lui-même et nous savions qu'il nous restait la partie la plus terrible de la besogne. Nous mîmes sous enveloppe le paquet, photographies, médaillons, anneaux et boucles de cheveux, et nous cachetâmes avec la cire et le cachet du jeune homme. Le major s'écria « Grand Dieu, allons dehors, hors de cette chambre, et réfléchissons !» Nous sortîmes pour nous promener une heure sur les bords du canal, manger et boire ce que nous avions apporté, jusqu'à ce que la lune se leva. Je sais maintenant au juste quelles sont les sensations d'un assassin. Avec un grand effort, nous parvînmes à rentrer dans la chambre où se trouvait la chose, et nous nous mîmes à la besogne qui nous restait à accomplir. Je ne veux rien écrire à ce sujet, ce fut trop horrible. Nous brûlâmes la literie et jetâmes les cendres dans le canal. Nous enlevâmes les nattes de la pièce pour les traîner de la même façon. Je me rendis dans un village et j'empruntai deux grandes pioches, car je ne voulais pas recourir à l'aide des paysans, tandis que le major se chargeait du reste. Il nous fallut 4 heures de travail acharné pour creuser la fosse. Tout en travaillant, nous discutâmes sur le point de savoir si nous ferions bien de dire tout ce qui nous restait en mémoire de l'office des morts. Nous arrangeâmes la chose en récitant l'oraison dominicale et en y ajoutant une prière personnelle qui n'avait rien de rituel pour le repos de l'âme du jeune homme. Enfin, nous comblâmes la fosse et nous allâmes sous la véranda, pas dans la maison, nous livrer au sommeil. Nous étions à demi morts de fatigue. Quand nous nous réveillâmes, le major dit gravement « Nous ne pouvons pas nous en retourner avant demain. Il faut que nous lui laissions le temps de mourir. Il est mort ce matin, de très bonne heure, souvenez-vous-en. » Cela aura l'air plus naturel. Le major était resté éveillé toute la nuit à réfléchir. « Pourquoi n'avons-nous pas rapporté le corps au cantonnement ?» demandai-je. Le major réfléchit une minute. « Parce que les paysans auront pris la fuite dès qu'ils ont entendu parler du choléra. » En outre, l'Ekka nous a lâchés. Cela, c'était littéralement vrai. Nous avions entièrement oublié le poney de l'Ekka. Il était retourné à son écurie. Nous passâmes donc seuls cette longue journée de chaleur étouffante dans la maison du canal à examiner et retoucher notre version de la mort du jeune homme pour en voir les points faibles. Un indigène parut dans l'après-midi, mais nous dîmes qu'un sahib était mort du choléra et il se sauva. Quand vint l'obscurité, le major me raconta tout de ses craintes au sujet du jeune homme, puis des histoires de tentatives de suicide, ratées ou réussies à faire dresser les cheveux sur la tête. Il dit qu'il était jadis descendu, tout comme ce jeune homme, dans cette vallée de l'ombre quand il était jeune et arrivé depuis peu en ce pays, qu'il comprenait bien comment les idées s'étaient livrées bataille dans sa tête bouleversée. Il dit aussi comment les néophytes, dans leur moment de repentir, croient leurs péchés bien plus graves, bien plus difficiles à effacer qu'ils ne le sont en réalité. Nous causâmes pendant toute la soirée et nous répétâmes l'histoire de la mort du jeune homme. Dès que la lune fut levée et que l'heure de son enterrement, selon notre version, fut passée, nous nous mîmes en route à travers champs pour regagner la station. Nous marchâmes de 8 heures du soir à 6 heures du matin. Malgré l'épuisement, nous ne manquâmes pas de nous rendre dans le logement du jeune homme pour remettre son revolver dans son étui, avec le nombre réglementaire de cartouches. Nous replaçâmes également son écritoire sur sa table. Nous allâmes ensuite trouver le colonel pour lui annoncer le décès, éprouvant de plus en plus les sensations des assassins. Puis nous allâmes nous coucher et nous dormîmes pendant tout un tour de cadran, car nous étions réellement à bout de force. Notre histoire trouva créance aussi longtemps qu'il le fallait, car 15 jours plus tard, tout le monde avait oublié le jeune homme et ce qui le concernait. Néanmoins, il se trouva des gens qui eurent le temps de dire que le major s'était scandaleusement conduit en ne rapportant pas le corps pour des funérailles réglementaires. Dans tout cela, ce qu'il y eut de plus triste, ce fut la lettre que la mère du jeune homme nous écrivit au major et à moi, avec de grandes taches qui avaient délayé l'encre semée sur le papier. Elle nous écrivait les choses les plus reconnaissantes possibles au sujet de notre grande bonté et de l'obligation qu'elle nous aurait toute sa vie. Tout bien considéré, elle nous devait quelque chose, mais pas vraiment au sens où elle l'entendait.